au réseau Cogeco.
Vous écoutez Auto 360.
Auto 360.
Avec Daniel Boudreau.
Et nous sommes de retour. On lâche un petit peu l'hydrogène et là, ça va sentir un petit peu plus le gaz parce que on va tomber dans l'histoire de M. Carroll Shelby. Et Philippe, écoute, ce monsieur-là en a fait beaucoup dans la course, en a fait beaucoup pour Ford et j'ai hâte de t'entendre sur son histoire parce qu'elle est assez intéressante. Merci.
Oh, c'est une histoire qui est tout sauf banale, hein, parce que l'histoire de Carroll Shelby, c'est l'histoire d'un éleveur de poulets du Texas qui est devenu une légende de l'industrie automobile et du sport automobile. Ça, c'est important de le préciser aussi.
Ouais.
Et pas seulement aux États-Unis, parce que comme pilote et comme constructeur de voitures de course, Shelby a gagné autant sur le continent américain que sur le continent européen. Parce que comme pilote, on l'oublie trop souvent, là, mais Carroll Shelby a même gagné les 24 heures du Mans en 1959 avec Aston Martin. On en avait d'ailleurs parlé lorsqu'il avait été question de l'histoire d'Aston Martin dans la première émission.
Yes.
Et ensuite, il est devenu constructeur et ses Cobra Daytona ont réussi à battre les présumément invincibles Ferrari 250 GTO en 1965. Et c'est d'ailleurs ce titre mondial qui va amener Ford à faire appel à lui pour battre Ferrari aux 24 heures du Mans. Mais là, je saute des étapes et on va commencer par le commencement. Carroll Shelby est né en 1923 à Leesburg, qui est une petite ville du Texas. Son père, qui est facteur, est aussi un passionné de voitures, puis il va transmettre sa passion à son fils en l'emmenant voir des courses de voitures à Dallas. La Deuxième Guerre mondiale va changer un petit peu les affaires, par exemple, parce que ça va amener Carroll Shelby à faire son service militaire et à devenir pilote d'avion. Mais il n'ira pas au combat. Il va plutôt servir comme pilote d'essai et instructeur de vol. Après la guerre, par contre, là, Shelby va être démobilisé. Puis là, ben, il est au début de la vingtaine, puis il doit, comme on dit, il doit se trouver un job. Et il a la fibre entrepreneuriale. Il va se lancer dans le transport routier dans un premier temps, sans grand succès. Il va ensuite s'essayer, comme bien des Texans, dans l'exploitation pétrolière. Encore une fois, sans succès marquant. Et finalement, ben, il semble avoir trouvé le bon filon en devenant éleveur de poulets. Les affaires vont même assez rondement. Ouais, je sais. C'est... Mais regarde bien, hein? Le destin.
Okay.
Il y a une épidémie qui va tuer 20 000 de ses volailles. Et ça va l'amener tout droit à la faillite.
Bon.
Et ça, c'est un tournant dans la vie de Carroll Shelby. Parce qu'à partir de ce moment-là, il va décider de se consacrer uniquement à sa passion, l'automobile, et plus précisément à la course. Et comme pilote, ben Shelby va connaître du succès aux États-Unis, mais au point d'attirer l'attention d'équipes internationales comme Maserati et Aston Martin, justement. Shelby va même brièvement accéder à la Formule 1 en 1958 avec la Scuderia Centro Sud, qui est une écurie privée qui fait courir des Ferrari. Mais le point d'orgue, là, l'apothéose de sa carrière de pilote, c'est vraiment sa victoire aux 24 heures du Mans en 1959. Malheureusement, sa carrière de pilote va s'arrêter là, en pleine gloire, parce que Shelby a des problèmes de santé, des problèmes cardiaques plus précisément. Il doit d'ailleurs prendre des pilules de nitroglycérine quand il pilote, puis ça, on s'en doute qu'il ne doit pas le dire à ceux qui l'engagent. Là. Et il a eu des problèmes de santé comme ça toute sa vie. Plus tard, il va devoir subir une greffe de rein, une transplantation cardiaque, c'est quand même pas rien. Là. Mais regarde, ça ne va pas l'empêcher de vivre vieux, hein, parce qu'il est mort en 2012 à l'âge vénérable de 89 ans. Alors, si on revient en 59, bon, ben Shelby met fin à sa carrière de pilote, mais il n'a pas encore 40 ans, ce qui est un petit peu jeune pour la retraite. Et puis, de toute façon, il y a un entrepreneur qui sommeille toujours en lui. Et cette fois, il va combiner ce talent d'entrepreneur avec sa passion. En fait, Shelby a une vision, il a un but. Il veut battre les Ferrari dans les courses de voitures de sport avec une voiture américaine qui coûterait trois fois moins cher à l'achat comme à l'entretien. Et c'est ce qui va donner naissance à la légendaire Cobra. Et d'ailleurs, là, je vous invite, si vous voulez voir des photos, entre autres, de la Cobra, en écoutant cette chronique, vous pouvez aller sur mon site www.philippelagu.com. On a mis plusieurs très belles photos de cette voiture mythique. Alors, la Cobra, ça commence comment? C'est Carroll Shelby importe d'Angleterre des AC Ace. Ça, c'est des petits roadsters, des décapotables deux places, dont les moteurs sont pas très, très puissants, mais Shelby, lui, il a la bonne idée de les remplacer par un V8 américain, un V8 Ford, plus précisément, de 260 pouces cubes. Et pour la petite histoire, Shelby a d'abord demandé à Chevrolet s'il pouvait utiliser un de ses petits V8, un small block, comme on les appelait, et Chevrolet a refusé parce qu'on voulait pas que ce moteur puisse servir à une concurrente potentielle de la Corvette. Ce qui était légitime, hein, parce que la Cobra est effectivement devenue une rivale de la Corvette, là, surtout sur les circuits. Donc, l'AC Cobra, qui est aussi vendu sous l'appellation Shelby Cobra, va utiliser le V8 Ford de 260 pouces cubes. Les 75 premiers exemplaires de la première série, la Mark I, vont utiliser ce moteur qu'on appelle aussi le Windsor, parce qu'il est assemblé à l'usine Ford de Windsor en Ontario. Les 51 exemplaires suivants vont avoir droit à une version plus puissante du V8 Windsor. Et là, ben, c'est la bonne vieille recette américaine. Pour augmenter la puissance, on augmente la cylindrée, qui passe de 260 à 289 pouces cubes, ou si vous préférez, de 4,3 à 4,7 litres. Alors, les Cobra Mark II vont avoir droit à une nouvelle direction, une nouvelle suspension. Et regarde bien ça, Daniel. La crémaillère vient de la MGB, tandis que la colonne de direction est empruntée à la Beetle. Comme quoi, la Shelby Cobra, c'est une sorte de Frankenstein un peu, là, tu sais, version automobile. Et rapidement, la collaboration entre Shelby et Ford va devenir de plus en plus étroite. Puis ce resserrement des liens va se matérialiser par la création de la légendaire Cobra 427, qui est une Cobra Mark III, donc à sa troisième phase de développement, mais qui est motorisée cette fois-là par un Big Block.
Ouais.
Hein, un gros V8 de 427 pouces cubes ou 7 litres. La puissance atteint 425 chevaux, ce qui est complètement fou, parce qu'en plus...
C'est une petite voiture.
Ben c'est ça. L'AC Cobra, c'est un poids plume, là. Ça pèse 500 livres de moins qu'une Corvette. 227 kilos de moins. Mais malgré tout ça, Shelby va perdre plus d'argent qu'il en gagne avec ses Cobras. Et ce chapitre-là va se terminer en 1967, quand il va prendre la décision de ne plus importer de châssis d'Angleterre et de mettre fin à la production de Cobra. Mais attention, ça ne veut pas dire que les choses vont mal pour Carroll Shelby. Au contraire. Parce qu'en 64 et en 65, il fait courir en Europe une version coupée de la Cobra, la Daytona. Et celle-ci va réussir l'impensable, c'est-à-dire de battre Ferrari qui faisait la loi dans le championnat GT avec ses mythiques 250 GTO. Alors, Shelby est ainsi devenu, en 1965, le premier constructeur américain à être couronné champion dans une série sanctionnée par la Fédération internationale de l'automobile, la FIA. C'est quand même pas rien. Et c'est donc naturellement vers Shelby que Ford va se tourner pour affronter Ferrari aux 24 heures du Mans. Parce que l'histoire du duel Ford-Ferrari, ça, c'est bien connu. Mais juste pour vous rafraîchir la mémoire, il faut rappeler que la première tentative de Ford aux 24 heures du Mans, en 1964, ça avait été désastreux, là. Les voitures étaient mal préparées et tombaient littéralement en morceaux. Et ça, Henry Ford II, le grand patron de Ford et le petit-fils d'Henry Ford, en a été profondément humilié. Et c'est là qu'il a demandé à Shelby d'interrompre son programme en GT pour diriger le programme de Ford en sport prototype, parce que l'objectif ultime, c'était de remporter les 24 heures du Mans. Là, j'ouvre une petite parenthèse pour nos auditeurs et nos auditrices, parce que dans les courses d'endurance comme Le Mans, Sebring ou Daytona, il y a plusieurs catégories. Prenons l'exemple de Jacques Duval, par exemple, qui a terminé septième aux 24 heures de Daytona en 1971, mais premier de la catégorie GT de moins de 2,5 litres. Alors, ce que Ford voulait, c'était la victoire absolue. Et pour ça, il fallait courir dans la grosse catégorie, celle des voitures les plus puissantes qu'on appelait prototypes, parce que c'était des voitures de course conçues pour la course et non des voitures de série modifiées pour la course. On connaît la suite. Ford a gagné Le Mans quatre fois d'affilée, quatre fois consécutives. Et les deux premières fois, ben, c'était des victoires de l'usine Ford, donc sous la direction de Carroll Shelby. Les deux dernières, c'est des équipes privées qui faisait courir des GT40, parce qu'après ça, après la deuxième victoire, Ford s'est retiré en se disant, ben, je pense qu'on a prouvé notre point. Hein?
Oui.
Et c'est ça qui va nous amener, Daniel, à parler de la Mustang Shelby. Ça, je vous garde ça pour le prochain bloc, sans jeu de mots. Hein? On parle de gros blocs puis de petits blocs.
Ça va être un gros bloc tantôt. Ben, un petit bloc, gros bloc. En tout cas, il va y avoir les deux.
Non. On va être prêt.
On s'en reparle tantôt, Philippe. Merci. Ben, merci. C'était très intéressant, M. Shelby. Si vous voulez nous poser vos questions, alors pour les gens de Montréal, 514-790-9850, Québec 418-670-9330 ou ailleurs 1-866-790-9850 ou encore auto360 à cogecomedia.com. On fait une pause et au retour, on vous parle. Restez là.
Au réseau Cogeco.
Auto360.
Auto360 avec Daniel Boudreau.
Avec Daniel Boudreau.
Ouais, une somme de retour. Il n'y a pas juste Daniel Boudreau, il y a Marc Bouchard, il y a Philippe Lagu. Et justement, Philippe est là pour nous parler de la Mustang Shelby GT 350. Ouf!
Une belle machine, hein? Mais avant de vous parler de la Shelby 350 d'aujourd'hui, je vais vous parler de ses origines, parce que parallèlement à son implication en course automobile avec Ford, Carroll Shelby va être étroitement associé à la plus célèbre voiture de ce constructeur, donc la Mustang, et ce, dès la naissance du modèle, là, ou presque. Hein. D'abord, je vous rappelle que la Mustang est présentée pour la première fois le 17 avril 1964 à l'Exposition universelle de New York, et dès l'année suivante, en 1965, il y a une version Shelby de la Mustang qui est proposée aux acheteurs. C'est la GT 350, qui est disponible seulement en blanc, avec la bande bleue en bas de caisse. Il y en a quelques-unes qui ont aussi des bandes bleues sur le capot, le toit et le coffre arrière, là, les fameuses Le Mans Stripes.
Oui, si vous en avez une, gardez-la, ou si vous voulez devenir riche, vendez-la.
Absolument, parce que dans les faits, les Shelby sont des Mustangs équipés de la version plus puissante du V8 de 289 pouces cubes de la Mustang, là, qui génère 271 chevaux. Alors, en comparaison, les deux autres versions du V8 de la Mustang font 200 et 225 chevaux. Mais pour Shelby, 271 chevaux, c'est pas encore assez. Puis quand les Mustangs arrivent à ses ateliers à Venice Beach, en Californie, là, on fait grimper la puissance à 306 chevaux, ce qui est considérable pour l'époque. Hein. Et les modifications de Shelby s'arrêtent pas au moteur. On la dote aussi de freins plus puissants à l'arrière. On recalibre les suspensions. Et ces versions extrêmes de la Mustang sont avant tout destinées au circuit. Alors, c'est pour ça qu'on les allège au maximum, ce qui implique la suppression d'accessoires liés au confort, comme la radio, par exemple. Et c'est pour la même raison qu'on leur enlève même la banquette arrière, ce qui permet de loger un pneu de secours pleine grandeur, mais aussi d'être conforme pour que la Shelby puisse être homologuée pour les circuits. Et tu le disais, elles valent cher, les premières Shelby. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y en a 562. Qui vont être produites en 1965. Alors, si vous vous demandez pourquoi elles valent aussi cher aujourd'hui, là, voilà la réponse. Dès l'année suivante, en 1966, la Mustang Shelby n'est plus une Mustang, mais une Shelby tout court. Il y a d'autres couleurs qui sont désormais offertes. La liste des options comprend maintenant une banquette arrière ainsi qu'une boîte automatique. Autrement dit, on commence à civiliser la Shelby, et ça, bien évidemment, c'est pour des raisons commerciales. Hein. Moins extrême égale plus d'acheteurs, l'équation est assez simple. La production, elle va grimper à 2378 exemplaires en 1966, mais ça inclut les 1000 exemplaires vendus à la compagnie de location Hertz, 1003 exactement. Ah oui, on pouvait louer une Shelby GT 350 pour une journée ou une semaine. La promotion s'appelait d'ailleurs Rent-A-Racer. Et j'ai pas besoin de te dire que ces voitures-là ont eu la vie dure. Hein?
Ça devait. Ils ont dû en voir de toutes les couleurs.
Ils ont été un petit peu maltraités, je pense. Mais
Ben
justement, pour ça, à la fin de leur vie, comme voiture de location, elles retournaient à l'usine Ford, qui les reconditionnait et les revendait sous l'appellation GT 350 H, H comme dans Hertz. Et les Shelby Hertz se distinguaient aussi par leur couleur. Elles étaient toutes noires avec des bandes dorées. Et dès le début de l'aventure Mustang, Shelby va proposer aussi à ses clients de greffer un compresseur sur le V8 289 qui fait grimper la puissance à 390 chevaux, ensuite à 440 chevaux. Et là, il y a vraiment une course à la puissance. Et ça va se poursuivre en 1967 avec l'ajout de la GT500 qui se différencie de la GT350. Tu t'en doutes, par son moteur plus puissant. Hein, on connaît le fameux dicton américain qui dit « There's no replacement for displacement », ce qui veut dire, en gros, que la meilleure façon d'augmenter la puissance, c'est d'augmenter la cylindrée. Alors, la GT500 1967 a droit, elle, au V8 Big Block de 428 pouces cubes. Et l'année suivante, le nom Cobra va être ajouté. Alors, les deux modèles s'appellent donc Shelby Cobra GT350 et GT500. Mais à partir de 1967 aussi, le torchon commence à brûler entre Ford et Shelby. Et pour faire une histoire courte, là, c'est avant tout une question de contrôle qui crée des tensions. Shelby, de son côté, veut garder le plein contrôle sur la construction des Mustangs Shelby qui sont assemblés dans son usine en Californie. Et de son côté, Ford veut mettre fin à ça et reprendre le contrôle de tout le processus de construction des Mustangs Shelby. Et là, ben, vous vous doutez que ça finira pas très bien.
Non.
La production des Mustang Shelby en Californie va s'arrêter en 1968. Ford, de son côté, va poursuivre leur production dans ses propres usines et les versions Shelby vont être offertes jusqu'en 1970. Par contre, elles ne porteront plus le nom Cobra. Et pour les deux dernières années de production, elles vont reprendre leur appellation d'origine, soit Shelby GT350 et GT500. Le chapitre Ford va donc s'arrêter en 1970 et Carroll Shelby va ensuite collaborer avec Chrysler où il va retrouver Lee Iacocca qui était chez Ford à l'époque de la Mustang et qui avait été un acteur important dans la collaboration entre Ford et Shelby. Et c'est comme ça que Carroll Shelby va se retrouver à agir comme consultant au sein d'un comité restreint qui est chargé de concevoir la Dodge Viper, qui était, faut le dire, une espèce d'hommage à la Cobra. Et le partenariat entre Shelby et Chrysler va durer un peu plus de 15 ans, de 1983 à la fin des années 90. Mais il faut dire, Daniel, que dans les dernières années, là, c'était une collaboration qui était plus symbolique qu'autre chose. Là, Shelby n'était même plus directement impliqué. Mais là, la boucle va être bouclée en 2005, on en parlait en début d'émission, là, avec la Mustang de cinquième génération, dont le design est clairement inspiré de la Mustang originale. Et c'est ce retour aux sources qui va coïncider avec le grand retour des versions Shelby. Alors, personnellement, j'ai conduit les Mustang Shelby des trois dernières générations et je peux vous dire que le modèle actuel est le plus abouti, de loin. Est-ce que c'est la meilleure Shelby de l'histoire? Sans doute. Si on regarde seulement l'aspect sportif, là, les performances et la tenue de route, il faut dire que le châssis de la Mustang n'a jamais été aussi raffiné. Et évidemment, la Shelby en bénéficie grandement parce que la Shelby, c'est à la base une Mustang. Faut pas oublier non plus, Daniel, hein, que la Mustang actuelle, c'est la première Mustang de l'histoire qui a été conçue pour être vendue sur tous les marchés, incluant l'Europe. Alors, on pouvait pas se permettre de tourner les coins ronds là, au chapitre du comportement.
Absolument pas.
Eh bien, pour ces raisons-là, tant la Mustang que la Shelby ont maintenant droit à une suspension arrière indépendante. Parce que même si Ford a fait du bon travail avec les essieux rigides là, sur les versions antérieures, il en demeure pas moins que c'était une conception un peu archaïque qui est arrivée, il faut le dire, là, au bout de son développement. Dans la deuxième décennie du 21e siècle, là, il fallait vraiment passer à autre chose. Et c'est ce qu'on a fait avec la suspension indépendante. Paradoxalement, même si la Shelby GT350 n'a jamais été aussi compétente, je suis pas certain que j'en achèterais une. En fait, je suis même certain, après l'avoir essayé pendant une semaine, je suis même certain du contraire. Et c'est là le problème, c'est qu'à 53 ans, je pense que je fais partie de la clientèle cible. Et c'est là le problème, pour la clientèle visée, la Shelby est maintenant devenue un peu trop extrême, un peu trop pointue. Son comportement n'a jamais été aussi pointu, justement, mais il y a un prix à payer pour ça. Puis dans ce cas-ci, c'est le confort. Honnêtement, Daniel, là, je pense que j'ai perdu quelques plombages là, pendant ma semaine d'essai. En bon québécois, là, ça porte dur. Et pourtant, il y a un mode un petit peu plus confortable. On peut jouer avec les suspensions, mais il n'y a rien à faire. Là. Ça cogne. Il y a aussi le moteur qui est vraiment trop bruyant. Et pourtant, Dieu sait que j'aime le son d'un gros V8 américain, mais trop, c'est comme pas assez. Et celui de la Shelby est vraiment envahissant et ça devient même rapidement agressant. La boîte manuelle n'est pas pour tout le monde non plus. Hein. C'est un modèle de précision. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Mais la pédale d'embrayage, c'est vraiment trop ferme. J'avais l'impression d'être au gym.
T'as fait une jambe. T'as fait au moins une jambe.
J'ai une jambe plus grosse que l'autre depuis que j'ai conduit à Shelby. Ouais. Et voilà, c'est ça le problème. La Shelby est devenue un peu trop extrême. Puis du sport extrême, ben, c'est pas de mon âge et je pourrais pas conduire cette voiture-là au quotidien. C'est vraiment devenu une machine de circuit. Et pourtant, il y en a des sportives que je pourrais conduire à tous les jours. Là. La Corvette, la Jaguar F-Type, la Porsche 911, même la Mazda MX-5, là, tu sais, qui est un petit roadster où on est assis au ras du sol. Mais la Shelby, là, c'est trop. Par contre, tu l'as dit en début d'émission, puis on va boucler la boucle avec ça, c'est un excellent investissement parce que plus vous la gardez longtemps, plus elle va prendre de la valeur. Mais moi, je vais dire, une bonne vieille Mustang GT, là, ça fait amplement le travail. Écoute, Mustang GT est un V8 de 5 litres, 435 chevaux. La Shelby GT350 est un V8 de 5,2 litres, 526 chevaux. Boîte manuelle à 6 rapports, comme je te dis, qui est quasiment une boîte manuelle de camion, surtout l'embrayage. Mais là où est le plus gros problème, c'est la différence de prix entre les deux. Une Mustang GT, c'est en bas de 40 000, le prix de base du moins, là. Alors qu'une Shelby, on est presque à 75 000.
Mais... Si vous voulez rentabiliser votre Shelby, allez sur des circuits de course. C'est là que vous allez avoir du fun.
Oui.
Moi, j'ai lorsque j'ai fait l'essai de cette voiture-là, j'ai dit enfin, la première Mustang qui tourne.
Ah oui,
c'est pas fait pour la ligne droite. Alors déjà là, elle se comportait très bien.
C'est
Et
sûr
pour
que
vraiment valoriser l'investissement, la différence d'investissement, tu as totalement raison. Faut l'utiliser sur un circuit.
Ben, pour en profiter pleinement, oui. Et comme je te dis, si tu achètes ça pour faire de l'argent avec ta voiture, t'es mieux d'acheter une Shelby. Si c'est un investissement que tu veux faire, c'est sûr, parce qu'une Mustang GT, ça prendra jamais autant de valeur. Il y en a
non,
trop.
Non.
Ça n'a pas la rareté d'une Shelby. Mais à partir de là, ben, ça dépend de vos priorités. Mais moi, comme je te dis, une Mustang Shelby, là, avec son V8, une Mustang GT, pardon, avec son V8 de 435 chevaux, là, moi, ça fait mon grand bonheur.
Ton grand bonheur. Merci beaucoup, Philippe. Si les gens veulent en savoir plus, on va où?
On va sur www.philippelagu.com. Vous avez des photos de la Cobra. Vous avez des photos de toutes les Mustangs Shelby. Et vous avez aussi des photos de la dernière Shelby que j'ai pu conduire. Alors, vous avez tout ça sur mon site. Vous avez ça également sur ma page Facebook où je vous invite cordialement.
Merci beaucoup, Philippe. À la semaine prochaine.
Salut, Daniel.
Bye-bye. Alors, si vous voulez nous poser des questions, Montréal, 514-790-9850, Québec, 418-670-9330, ailleurs, 1-866-790-9850, ou encore, auto360 à cogecomedia.com. Courte pause, au retour, on vous parle. Restez là.